Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Do you want to be a fighter?
RMC.
There's only one! Tyson Fury!
Fighters Club.
I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody!
Alexandre Herbinet.
I am the greatest!
Salut, bonjour à tous et bienvenue dans un numéro spécial du RMC Fighter Club en plein été, alors que d'habitude on plie les gaules à ce moment-là, mais il y a un petit événement qui mérite qu'on soit derrière le micro cet été. Avec nous ce soir dans la cage, Jonathan McCarty. Salut John.
Salut tout le monde.
Avec nous aussi le membre de la Dream Team RMC Sport, de la MMA Factory, ancien de l'UFC, Monsieur Taylor Lapillus, bonjour.
Salut les gars.
Et bah j'ai l'impression, les gars, qu'on vit un jour sans fin, parce que tous les mois et demi, on reçoit le même bonhomme qui va combattre et puis qui gagne, et puis on le reçoit encore, et puis c'est comme ça. Et bah voilà, donc le 7 août à Houston, Toyota Center de Houston, monsieur Cyril Gann contre monsieur Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC. Première fois qu'un Français va disputer une ceinture à l'UFC. Donc déjà, pour vous rappeler ce qu'a fait Cyril Gann dans sa dernière sortie, c'était le 26 juin contre Alexander Volkov, numéro 5 de la catégorie. On écoute la performance de bon gamin.
Allez, c'est parti. Cyril Gann, short bleu, le français face à Alexander Volkov, le russe, tout de suite très agressif et des low kicks, short noir.
On commence en low kick.
Ouais. Allez, faut continuer à sautiller, faut continuer à le faire bouger, à le fatiguer et presser.
Oh.
Attention à ce high kick.
Attention à ça.
Bien ça à la gauche. Allez, rentre. Oh, on lui dit un doigt dans l'œil, mais non.
Non, ça pourrait être un. Non, j'aime pas ça.
Cyril va gagner.
C'est terminé.
C'est fini et
terminé.
Ça sent bon. Ça sent bon pour Cyril Gann.
Ah là c'est une victoire.
C'est une victoire.
Et voilà la victoire de bon gamin, Cyril Gann qui s'impose.
Et voilà, 26 juin, c'était à Las Vegas, la victoire par décision de monsieur Cyril Gann. Nouvelle masterclass, les gars, on est d'accord, que nous avait fait Cyril contre Volkov. Domination.
Ouais, c'est magnifique.
2x5-0 et 1x4-1 chez les juges, je crois. Bon, on avait à peu près.
Moi, j'avais pronostiqué 5-0. Et on m'avait dit à ce moment-là que j'abuse.
Voilà, oui, tout
on m'a
fait.
Dit, bon, t'abuses un peu, Taylor. J'ai dit non, les gars. Pour moi, il y a 5-0. Et bah, il y a deux des juges qui ont mis 5-0.
Exactement, et on avait échangé tous les deux par message, on était bien d'accord. C'était du 5-0 pour moi aussi ce soir-là. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un mois, hein, 26 juin, tranquille. Et puis un mois et demi plus tard, et bah, on va disputer une ceinture intérimaire de l'UFC, monsieur Cyril Gann quand même. Donc déjà, bah, première question pour entamer les hostilités. Cyril, comment ça va quelques semaines après cette démonstration contre Volkov?
Bonjour les experts.
Salut.
Bonjour les experts, parce que j'ai quand même... Taylor vient de prouver que c'est un expert. Ouais, ça va très très bien. On a bien récupéré quand même, parce que c'est vrai qu'au retour du combat, on a enchaîné les interviews, on a enchaîné... J'avais des contrats pubs, des choses comme ça. Enfin, tout s'est enchaîné dans la foulée. La reprise de l'entraînement en même temps, tu vois.
Ouais.
Sans même se reposer, tu vois. Je crois qu'on a pris 3 jours de repos. Jet lagué de fou. Enfin, tout ça a fait que j'ai eu un surménage, ce qui fait que j'ai même cassé ma voiture par fatigue. Je te jure, c'est vrai. et donc, du coup, on a décidé derrière ça de prendre, je te jure. Non, mais pas un truc grave.
Déjà, faut que tu nous expliques. Ouais.
Non, en sortant du garage, genre, en gros, j'enchaîne ma journée. Il y a l'UFC aussi qui m'a suivi aussi. Enfin, tout ça, c'était en même temps. Genre, vraiment tout en même temps.
Un truc de jeune conducteur.
Un truc de jeune conducteur. J'ai rayé. Genre, j'ai braqué en marche arrière, en sortant du garage. Et j'ai braqué trop vite. Genre, comme... En fait, j'étais endormi. Tu vois. Je dormais debout.
C'est toujours le conseil qu'on donne aux jeunes conducteurs. Ne faites pas des interviews en même temps que vous
conduisez. C'est ça, exactement.
C'est compliqué, les gars.
Prenez très large en évitant le trottoir.
C'est tout. C'est compliqué. Ce timing-là, c'est la première chose sur laquelle je voulais t'interroger. Mais reprise d'entraînement, 3 jours après le retour des États-Unis.
Trois jours après, grosse bagarre. Je crois que c'était même la bagarre qu'on voit sur Instagram que j'ai postée avec les gars. Là. Donc direct, grosse bagarre.
Ah là là, c'est chaud ou pas? Enfin, avec le jet lag et tout ça, c'était vraiment tendu
chaud,
de reprendre aussi
chaud.
Vite.
La vérité, c'est quoi? C'est que c'est même pas la fatigue physique qu'on ressent. En fait, tu comprends. Moi, je comprends en tout cas mon corps. Et c'est de la fatigue mentale. Et donc, c'est pour ça tout ce qui est interview, contrat pub. Entraînement, l'UFC qui vient filmer pendant 48 heures et tout ça. Il faut remplir les journées, tu sais, pour eux et tout. Enfin bref, c'est un rythme où, en fait, si tu veux, ta tête, elle explose. Et au final, tu te sens fatigué, mais c'est même pas physiquement. Et donc, tu vois, tu fais des bêtises comme j'ai pu faire avec la voiture. Mais bon, voilà, après tout ça, après cette grosse vague, on a décidé de prendre 3-4 jours, tu vois, encore. J'ai fait un bon week-end de 4 jours où j'ai vraiment coupé avec l'entraînement. Je suis même sorti. J'étais boire des verres avec des potes et tout. Et ça, ça fait du bien. Et c'est là où je me dis, c'est vraiment mentalement que ça se joue.
Ouais, il fallait, t'en avais besoin aussi.
Ouais, de couper.
Avec toute la période qui s'enchaîne, c'est quand même compliqué. Quoi. Au-delà de cette ceinture intérimaire, on va en reparler, bien sûr, des enjeux de ce combat. C'est aussi, t'es en main event d'un pay-per-view UFC, ce qui est aussi une première pour toi. Et donc, il y a ce que tu nous dis là, l'UFC qui va te suivre, les embeds, la série de vidéos embeds, la série vlog, voilà, où ils suivent les combattants de.
Le countdown aussi.
Le countdown, ils suivent exactement. Les principaux combattants d'un pay-per-view. Tu te rends compte de à quel point ça va changer ton approche de combat par rapport à ça? Il y aura beaucoup plus de médias, il y aura beaucoup plus de présence de caméras et ça va être à gérer aussi, ça?
Je crois qu'on le vit déjà. Hein. Je suis dedans déjà. Je crois que je suis dedans.
Bah, t'as fait un main event déjà.
Oui, voilà, c'est ça. J'en ai fait même trois d'affilée là. Ouais. Et donc, je ressens déjà. Je pense pas qu'il y aura plus. Enfin, je crois que c'est impossible de faire plus en fait. Donc, on est déjà dedans. Et le fait que ce soit pay-per-view et que tout ça. Ça va rien changer à l'aspect du combat. Par contre, ça va changer à l'aspect du porte-monnaie, je crois. Non
pas pour
celui-là.
Ça dépend ce que vous avez négocié. Si c'est, y a ça, un c'est, ça, c'est ça. C'est ça. Ou pas.
Un intéressement ou pas.
Pas pour celui-là. Ce sera
pour le prochain.
Voilà. C'est ça.
Une fois qu'il y a la ceinture autour de la taille, la famille.
Quand
il y a un intéressement PPV, ça change.
Pour inviter au resto.
Je peux dire,
j'ai jamais invité au resto.
Non, mais là, il arrêtera de partir ce moment où il y a l'addition qui arrive d'aller aux toilettes.
Oh la mauvaise langue.
Franchement, il est pas comme ça. Depuis le TKO, et sachant que c'était des primes qui n'étaient pas ouf. Ouais. Et bah, il était déjà en mode gars, vas-y. Venez.
Non, j'ai jamais été proche de ça.
Non.
Je m'en fiche un peu de ça.
Autant il y a des mecs qui ont vraiment la main dure et tout, et ils t'offriraient pas leur slip sale, tu vois. Autant lui, il rince, tu vois.
Ah, c'est ça. Cyril, il est pas proche des sous. C'est les sous qui vont être proches de Cyril bientôt, en fait. C'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Et du coup, Cyril, là, tu ta paye va être augmentée très nettement.
Très nettement.
C'est 250 000.
Combien t'as dit ?
250 ?
Non, c'est plus.
C'est 350 ?
Ouais, voilà.
En fait, ça dépend. 250, c'est quand t'es le champion, quand tu vas t'es challenger, mais bon, il y a pas trop de hype, il y a rien quoi. Ils mettent 250. Sinon, globalement, quand t'as de la hype et tout derrière toi, ils mettent 350 quand même. Souvent, ils mettent 350. Cody Garbrandt, ils avaient mis 350.
Ouais. On y est.
Pour Cruz.
Pour Cruz, ils avaient mis 350. Quand t'es accompagné d'une hype et tout, ils mettent 350.
On y est, mais je voulais en parler un peu plus tard. Mais tant qu'on y est, autant l'aborder direct. Ça change la vie quand même, de se dire qu'on a ce chèque-là au bout, et puis possiblement de plus gros chèques encore derrière si tu prends la ceinture là. Il y a une petite fille qui arrive au mois d'août.
Non, bien sûr, c'est une sécurité en fait. Une sécurité, ça permet de pas avoir l'esprit occupé par l'argent. On sait très bien que l'argent, il est là, il est posé, et qu'on peut se concentrer sur autre chose. Au-delà de ça, est-ce que ça change mon quotidien ? Un peu tout de même, parce que du coup, comme je dis, je ne suis pas proche de l'argent, donc quand il faut faire plaisir, on se fait plaisir. Pour autant, je ne suis pas du genre à faire n'importe quoi avec l'argent.
Oui, c'est clair. Sur ton approche du combat, là, sur ce timing court déjà, qu'est-ce que ça change? Et Taylor, tu pourras nous en parler aussi, tant que combattant, qu'est-ce que ça change d'une approche aussi courte? Alors, je sais que on en a parlé déjà au moment de l'annonce de ce combat, on va le rappeler aux auditeurs, Cyril était au courant quand tu affrontes Volkov, tu es au courant que si tu gagnes, il y a cet intérimaire contre Lewis le 7 août.
J'interviens, parce que ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'il y a 9 combattants sur 10... Je suis désolé, mais j'ai pas d'autres termes, donc je vais être un peu vulgaire, mais qui chient dessus, clairement. Quand tu leur dis un truc comme ça, 9 combattants sur 10 se chient dessus, ils disent « Oh punaise, là, si je perds, le titre me passe sous le nez. » C'est extrêmement difficile de gérer ce genre de pression avant le combat. Et au moment où Fernand me dit « S'il gagne, il y a peut-être 3-4 heures avant le combat », et il me dit « Si Cyril gagne, il fait la ceinture », la première question que je lui pose, c'est « Mais tu lui as dit ?» Genre, lui dis rien, tu vois, laisse-le aller faire son combat. Et lui, il me répond « Ouais, je lui ai dit, il est OK, tout ça, tout va bien. » Et je lui dis « Ils sont ouf, c'est des ouf. » Et il arrive le soir, il fait le combat, il gagne. Et du coup, au moment où il gagne, je sais ce que ça veut dire, tu vois. Et il gagne et je dis « Non, ils sont trop forts, Et, ça fait kiffer, mais je veux dire… C'est pas un truc, c'est vraiment pas. La plupart des gens l'auraient pas dit et beaucoup de combattants n'auraient pas assumé ce poids-là qu'il y a sur les épaules. Même si tu le sais, c'est pas la même chose quand tu sais ce qui peut se passer que quand le matchmaker te dit OK, tu sais là, si tu gagnes tout à l'heure, t'as la ceinture. Donc c'est pas la même chose. Et ils le savaient, il a fait le taf. Donc franchement, gestion du stress. Gestion de la pression, du coup, je suis plus inquiet.
Comment c'était dans ta tête une fois qu'on t'a dit ça?
Bah,
rien, tout va bien.
Comme à mon habitude, c'est bizarre. Voilà, ça m'a complètement détaché de ça. Et puis, de toute manière, très rationnel, dans le sens où si on veut accéder à ça, il faut déjà, dans un premier temps, être très focus sur le combat qu'on a devant nous et de réussir et de le passer. Donc, j'ai mis ça dans un côté de ma tête. Vraiment, ce que je voulais, c'était gagner face à Volkov, parce que gagner face à Volkov, ça voulait dire pas mal de choses pour moi. C'est vraiment quelqu'un que je considère beaucoup dans le ranking. C'est, pour moi, je dirais pas le plus fort, parce que d'autres ont d'autres qualités, mais je dirais le plus complet de la catégorie. Et donc, pour moi, ça représentait beaucoup. Donc, j'étais déjà très focus sur ça. Tu sais, je pensais même pas à la ceinture.
Et c'est d'ailleurs...
Attends, juste quand on t'annonce que tu vas probablement combattre pour le titre, on te dit que c'est pour la ceinture intérimaire ou que c'est pour la ceinture
intérimaire.
Non, intérimaire. C'est vrai que c'était pour la ceinture intérimaire.
Bien sûr, bien sûr. Okay. Moi, je sais que c'était Derrick Lewis, je sais que c'était à Houston le 7 août.
Et on est d'accord que Volkov, c'est la même chose pour lui.
Ah oui.
S'il gagne ce match-là ce soir-là, il est contre Lewis le 7 août.
Ça se vend aussi, c'est la revanche de leur combat sur le pay-per-view de Conor Khabib où Lewis gagne à la dernière seconde. Lewis perdait jusqu'au dernier, sauf 10 secondes.
Il y a 10 secondes de la fin.
30 dernières
après,
secondes.
Après, pour moi, je vois Volkov quand même très dangereux. Il était en tout cas très dangereux sur le papier. Pour moi, c'est un des épouvantails de la division. C'est-à-dire qu'il est vraiment très compliqué à aborder. Et je ne suis même pas sûr. Aujourd'hui, Francis est champion. Mais je ne pense même pas que Francis batte Volkov, pour être très honnête. C'est-à-dire que s'il ne l'assomme pas dans les deux premières reprises, et je suis gentil, je vais te dire même la première reprise, concrètement, je suis même pas sûr que Francis passe Volkov. Et comme je dis souvent, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui me disent « Ouais, il est fort, bon gamin et tout, mais tu vois, c'est pas comme Francis. Francis, il assomme les mecs, lui, machin. » Et je dis au mec, effectivement, c'est peut-être pas la même chose, mais je pense que vous sous-estimez la capacité de Cyril à rendre les mecs nuls. C'est-à-dire que quand vous regardez le combat, le mec a l'air nul, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement fort de dominer un mec et de dire, ok, mais à la fin du combat, on regarde et on dit, mais regarde aussi le gars qui lui ont mis. Non, c'est pas regarde le gars qui lui ont mis, le mec était fort. Mais c'est juste que la perf, elle était tellement dingue que t'avais l'impression qu'il y avait deux niveaux d'écart.
Mais ce qui est impressionnant pendant le combat, c'est les ajustements, parce qu'au début, quand il commence à te bombarder les jambes, là, je me suis dit, ça peut être gênant. Et au final, je sais pas ce que tu as fait, tu as switché un truc et puis voilà.
Ouais, on a adapté. C'est vrai que je pensais pas
en fait
sur le. Parce qu'il y a un travail en amont, hein, bien sûr, avant chaque combat. Et c'est vrai qu'on était très focus sur les middle, sur les front et éventuellement les high kick. Mais pas sur les low, tu vois. Donc quand il a décidé de doubler les low, cap.
Ça t'a surpris, les remises rapides.
Il m'en a mis deux, trois.
Dès le début, il est arrivé, blocage, remise direct dans la foulée. Ça t'a surpris, ça?
Oui, ça m'a surpris. Après, ça ne m'a pas déstabilisé pour autant. Tu connais.
Tu t'adaptes.
Oui,
après, R2, il en a un peu moins. Ça pompe du cardio quand même, ça.
Ça pompe du cardio, on l'a R2, vu. C'est il pour en ça a qu'R2, moins... il n'était pas aussi présent que Round 1 et que.
Après,
que
pour revenir sur ce que tu dis, Taylor, est-ce qu'on. On ne sait pas quand même. Je pense que Francis a quand même fait des progrès. Tu vois, le dernier combat, c'est peut-être le dernier combat contre Stipe, où j'ai l'impression qu'il avait un peu plus de cardio, que sa lutte était plus
complète.
Il n'y avait pas tant de progrès que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont juste réussi à le canaliser pour ce combat-là. Et c'est là où ils ont été forts.
Même en lutte, tu ne trouves pas quand il prend le dos de Stipe le Wizard là,
non,
ça ne t'a pas impressionné, ça?
C'est des choses très, très, très basiques et élémentaires du MMA. Je veux dire,
il
ne
savait pas le faire avant.
Il savait le faire, il ne le faisait juste pas, il n'en avait pas besoin. Jusque-là, il avait assommé tous les mecs avec un direct. Il faut se rappeler que si vous regardez les récents combats de Francis, il ne touche même pas bien les mecs. C'est-à-dire qu'il y en a qui frôlent et qui tombent KO. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il savait déjà le faire. Mais il n'en avait pas besoin, il ne l'utilisait pas. Là, il n'a plus le mettre en lumière contre Stipe. Maintenant, je pense que ce qui a fait la différence de ce combat-là, ce n'est pas la préparation. C'est juste qu'il a abordé le combat mentalement serein, déjà d'une part. Et deuxièmement, ils ont réussi à canaliser un petit peu
je pense aussi.
L'énergie de Francis. Peut-être que cette énergie-là, elle a été canalisée par la peur de perdre du premier combat, où il s'est dit, là, je vais écouter religieusement ce qu'on va me dire, parce que le premier, ça, c'est compliqué. Donc là, je vais bien écouter ce qu'on va me dire. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a bien fait, et ça donne, on va pas se mentir, il a fait une grosse perf. C'est-à-dire qu'il a surclassé Stipe de A à Z. Mais au fond de lui, pour l'avoir connu personnellement, il reste le même mec. Donc moi, ce que je me dis, c'est que, alors déjà
Dans un
monde parfait, Cyril gagne le mois prochain, Voilà, on kiffe, on est content, on fait des belles photos avec la ceinture, j'ai hâte. Je me demandais, la dernière fois, j'étais à la salle, je me disais, est-ce que je vais te dire, mais là, sur l'épaule gauche ou l'épaule droite, je ne sais même pas. Tu vois, donc, plus sérieusement, voilà. Et dès que si Cyril venait à s'imposer contre Lewis, forcément, il deviendrait le challenger direct de Francis. Et ben, je pense que ce sera un combat très compliqué pour Francis à aborder mentalement et stratégiquement. Parce qu'au moment où il va voir que ça coince un petit peu, là, il va partir un peu en cacahuète.
Alors, j'ai envie de te dire,
ça va être intéressant.
J'ai envie de te dire, ne mets pas cher et puis ne nous grille pas des cartouches parce que quelque chose me dit qu'on va peut-être faire quelques émissions
autour de ce qu'on en aura plein. On en aura plein à dire. À bon, voilà,
on a quelques.
Il y a deux heures de. On pourra faire deux heures de podcast.
Pour revenir sur ce que disait Taylor par rapport au combat de Francis, c'est vrai que ça s'apparente vraiment à des gros progrès de la part de Francis pour les personnes extérieures. Mais nous, on sait au sein même du MMA Factory à quel point il a pu travailler avec Fernand Lopez. Et à quel point, les gens ne savent pas à quel point il a absolument tout travaillé. Ouais. Et puis en plus, Francis, c'est un travailleur. D'ailleurs, c'est Lopez aime bien préciser que Francis a travaillé dans sa carrière deux fois plus que moi, sur tous ces aspects-là, que ce soit le sol, la lutte, etc. Ils ont fait venir du monde pas possible à la salle pour Francis. Il a mangé des heures et des heures d'entraînement de lutte, de sol, etc. C'est juste que le jour J, Francis Tipe numéro 1, là, il n'a absolument pas écouté. Ouais. Et au niveau du numéro 2, bah, comme il dit Taylor...
Ouais, et puis ça pardonne pas, hein, si t'écoutes pas...
Mentalement, et c'est ce qui est, ouf, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais mentalement, là où moi je suis rassuré, c'est que Cyril, mentalement, il a pas besoin de... Il a ce relâchement, tu sais, il est décontracté. Mec, il arrive, il va vers la cage et il dit attends, c'est quoi le son là qui tourne? Alors qu'il va combattre et tout, il fait le combat le plus important de sa carrière. Le mec, il dit c'est quoi le son? Enfin, t'as vu ça où? Ça n'existe pas, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et Francis, à contrario, c'est un mec, on n'en a pas l'impression, mais encore une fois, pour l'avoir connu personnellement, il stresse énormément.
Mais on devrait arrêter de matrixer le truc et de parler de Francis.
Ouais, je suis d'accord. On va
allons-y.
C'est pas le moment.
Qu'est-ce que tu penses de Derek Lewis?
Pour plus tard, on sera bon.
Exactement. On repart sur Derek Lewis.
Là, c'est l'affect qui parle.
Déjà,
désolé, les gars.
Ouais, mais j'ai pas envie qu'on matrixe le truc. Vas-y, bien. Ça veut pas dire qu'il gagnerait pas, mais qu'il y a un John Jones ou machin, je sais pas quoi.
Mais attends,
le combat est pas annoncé. Venez, on en parle
plus. Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut piquer ma place si jamais.
Non, moi, je pense pas.
Je pense pas.
Fois qu'il y a la ceinture, je pense pas non plus.
Non, en fait. Ouais, moi, je pense pas. Ça sera
et même John Jones, même sans ceinture, je pense qu'ils vont pas réussir à trouver un terrain d'entente tout de suite avec John Jones.
Oui, et on en parlait un peu Taylor, mais c'est presque même dans leur avantage de le faire un peu plus tard en fait et de monter que ce soit Francis ou toi Cyril et d'avoir un champion un peu intouchable et de lui mettre le goat entre guillemets entre les pattes dans quelques temps, ça peut être encore plus vendeur pour le coup. Mais donc on retourne sur Derek Lewis. Première question avant qu'on rentre dans les spécificités de ce combat, mais déjà sur ce timing, c'est un mois et demi, un petit peu moins même entre Volkov et Lewis. Est-ce que ça complique une prépa? Est-ce que ça complique l'approche du combat et l'approche du travail sur le game plan, par exemple? Qu'est-ce que ça change d'avoir un timing si court? Et Taylor, tu pourras répondre aussi en tant que combattant.
Est-ce que ça m'apporte de la difficulté? Bah, je pense qu'on a abordé le petit point petit peu difficile. C'est la fatigue mentale. C'est uniquement la fatigue mentale. Après, ce qui est bien, c'est que tu restes dans le jus, tu restes concentré. T'enchaînes, tu sais, c'est une bonne sensation quand même d'enchaîner les combats comme ça.
Parce que le dernier camp, tu me disais pas de bobo, que c'était vraiment au top. Là, c'est toujours pareil.
Pas de bobo majeur, des petites contusions parce que, comme on a dit, il a pas mal kické avec sa jambe avant. Donc, il y a des blocages qui se sont passés, d'autres non. Donc, la jambe avait pris un petit peu au niveau du mollet, au niveau de la cuisse. Mais c'est des petites contusions, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien du tout. Donc, au fil du temps, c'est très vite passé. Et donc non, moi je me sens assez confortable avec cette situation de devoir enchaîner les combats.
Comment tu t'organises du coup? Tu refais une phase de foncier ou tu re-rends directement?
Pas la peine. Non, pas la peine. On est à un mois du combat, donc le foncier c'est même pas nécessaire. On reste dans le jus, on n'a même pas pris une semaine de vacances. Donc
c'est de la stratégie là.
Ouais.
À un mois, tu fais que de la stratégie.
C'est ça. De l'adaptation face à l'adversaire. Ouais. C'est vraiment de l'adaptation, réadapter le profil de l'adversaire. Donc on prend des sparring partners différents. Et on se part un petit peu léger pour pas se blesser, on se remet dans le bain.
T'as pas les mêmes sparring que pour Volkov.
Exactement, voilà.
La même morphologie.
On se réadapte à une nouvelle adversité, tranquillement, gentiment. Le cardio est là, on continue un petit peu la préparation.
Est-ce que c'est une question peut-être un peu provoque, mais est-ce que le fait d'avoir déjà sparé avec Francis, tu penses pas que ça t'a bien préparé à affronter Derek Lewis? C'est-à-dire des combattants
tracking
rudimentaire, mais sur lesquels il faut faire attention.
C'est pas le même style.
Ça reste rudimentaire.
Ouais, mais c'est pas
non, pas du tout.
C'est pas le même style et. Je vais sortir Francis de ma tête. Oh là. Derek Lewis. Derrick Lewis est beaucoup plus simple à aborder que Francis, malgré tout. C'est-à-dire que déjà, le knockout power qu'ils ont est quand même sensiblement différent. Et on a un Lewis qui est, lui, conscient qu'il n'a pas de cardio et qu'il n'a pas de physique. Donc, du coup, c'est une gestion du combat qui sera totalement différente. Mais en vrai, là où il faut vraiment être vigilant, alors il faut être vigilant dans les deux cas, hein, sur un Francis ou un Lewis, mais je pense malgré tout qu'il faut être beaucoup plus vigilant sur un Francis qui n'a pas forcément besoin de bien te connecter que sur un Lewis. En vrai, Cyril, il a juste besoin de faire finalement ce qu'il a fait plus ou moins avec Volkov. Et s'il a une ouverture de le finir, s'il a l'ouverture de le finir, mais sinon, si ça devait arriver au 5 rounds, bah, il faut être vigilant et pas prendre un mauvais coup. Mais globalement, le style de Cyril est tellement compliqué pour Lewis que.
Pour un profil comme Lewis. Ouais,
enfin, il est extrêmement limité, il n'a pas de lutte, il n'a pas de sol.
Il sait se relever.
Il a des coups de pied hasardeux, un peu aléatoires. Et puis, il y a effectivement ce overhand qui pose problème. Mm-hmm. Mais qui est de moins en moins efficace au fil des rounds. Donc il faut juste faire gaffe à ne pas se faire connecter et à ne pas avoir un petit peu ce lucky punch qu'il a pu avoir contre Volkov, parce que c'est clairement ça, c'est un lucky punch contre Volkov. Donc il faut juste rester vigilant à ne pas prendre un mauvais coup pendant le combat, quoi. Vraiment, le fameux protect yourself all the time, tu vois.
On pour rappeler un peu à nos auditeurs qui le connaissent moins, donc Derrick Lewis, surnommé The Beast, un Américain, 25 victoires, 7 défaites en carrière. Sur les 25 victoires, il y a 20 KO, donc c'est ce qu'on parle, hein, c'est de la puissance et ça éteint la lumière de l'adversaire. Il reste sur 4 victoires, on a deux références communes sur ces 3-4 dernières années pour vous deux. Il a perdu contre Junior Dos Santos en mars 2018, et il gagne donc contre Alexander Volkov, mais sur un lucky punch, enfin c'est plutôt en fin de combat, alors qu'il est dominé. Toi, déjà, ce profil de mec qui va sur 32 combats en carrière, il va que 6 fois à la décision. Donc en gros, on sait que ce soit de son côté ou de l'autre côté, que ça s'arrête un peu en général avant la fin du combat. Ouais. Toi, déjà, ce profil-là, est-ce que tu te dis dans ta tête que c'est un combat qui a quand même de grandes chances de ne pas aller à la fin des 5 rounds, ou comment tu l'abordes par rapport à son profil ?
Franchement, j'en ai aucune idée, parce que je n'ai pas bien étudié la façon, en tout cas la manière dont les gars pouvaient mettre la pression et la manière dont lui pouvait garder le cardio jusqu'à la fin des 5 rounds. Tu vois, j'arrive pas à évaluer ça. Si je compare à Jairzinho, par exemple, parce que c'est un profil qui est un peu similaire, je dirais un peu moins technique, un peu moins de cardio, mais c'est un peu la même chose. C'est des mecs qui aiment bien contrer, c'est des mecs qui aiment bien démarrer de cette manière-là. Non, qu'est-ce que je peux dire sur Derrick Lewis, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien dire, et ça c'est important, qui aime bien dire que c'est pas un mec ultra technique quand il vient de dire. C'est vrai, mais je trouve qu'il est quand même très intelligent. Je trouve qu'il est quand même très intelligent dans le sens où le mec n'a pas beaucoup d'armes. Tu vois,
mais il est conscient, c'est ce qu'on a dit.
C'est ça, et c'est ça, c'est
est conscient
de sa force. C'est une force, hein, c'est une force, les gars. Hein, ça.
Quand c'est juste ça, c'est qu'il il se ment pas. Il est conscient de ce qu'il sait faire et pas faire.
Et c'est pour ça qu'il est en adéquation avec lui-même, et c'est pour ça qu'il arrive à avoir des bons résultats. Il sait, il va pas courir après toi, le boug.
Il est plus dangereux qu'un mec qui tente des choses où il est pas à l'aise, quoi.
Voilà,
il est plus dangereux.
Il sait, il va pas cavaler, il va attendre que Cyril rentre pour essayer de le contrer. Mais le style de volume qu'a Cyril, moi je pense que ça peut pousser Lewis à l'abandon.
On l'a déjà vu, hein, dans certains combats. Hein.
Quand ça devient chaud, il baisse les bras quand même. Regardez les fights qu'il a fait, hein, où il perd. Quand ça devient chaud,
Mark Hunt,
Dos Santos. Quand ça devient chaud,
même contre Ivanov, il me semble que c'était un petit peu compliqué.
Volkov, c'était deux doigts de.
Et Volkov, il est 20 secondes où il est touché par la grâce.
Voilà, tu vois,
c'était 3 rounds 0, quoi.
Ouais. Donc, si Cyril met un bon volume et tout, alors après, c'est dangereux parce que qui dit volume, qui dit exposition. Donc, il va s'exposer aussi aux frappes et aux contres de Lewis. Mais je pense que si Cyril lui met un bon volume,
En restant prudent,
en gardant tes distances,
il finit pas le combat.
C'est cette notion de toucher sans être touché dont on a souvent parlé.
Ça,
et est-ce qu'on peut s'attendre à revoir un peu ta performance contre Jairzinho, Rosenstruck, tout simplement?
Au final, oui, parce que c'est un mec archi dangereux. Jairzinho, c'était la même chose. Jairzinho, c'était si tu débites 3 coups, ça veut dire que tu vas rester une seconde et demie à l'intérieur. Si tu restes une seconde, ça suffit pour lui pour envoyer un punch. Et si tu te touches, tu tombes. C'est un peu le même.
Il y a aussi
John Taylor, ouais, c'est cette approche-là qui, selon vous, nos experts, c'est cette approche-là qu'il faut avoir contre un mec comme Lewis.
Ça me semble être un peu plus intelligent, mais je pense encore une fois que Lewis est quand même un petit peu moins technique que Rosenstruck. Je pense que Cyril aura plus de place pour s'exprimer. Il y a un point, moi, qui je trouve une de ses grandes qualités, on le disait, c'est que c'est pas technique, c'est très bizarre, mais il se relève très facilement quand on l'amène au sol. Mais j'aimerais bien le voir, tu vois, sous une vraie pression, avec quelqu'un qui essaye de le maintenir, qui l'attaque en soumission, qui avec des choses un peu techniques. Et je pense que là aussi, il y a un vrai avantage à avoir. Parce que alors, la manière dont il se relève, c'est juste à la volonté, à la force. Mais on sait que Cyril, athlétiquement, il est quand même là.
Bah, on a vu.
Je pense que contre, ça pourrait être un atout pour toi aussi.
Contre Cormier, on a vu ce que ça a donné.
Ah oui, mais Cormier,
là, il lui a fait enfiler ses chaussures de lutte et puis il lui a donné un séminaire de lutte pendant tout le combat. Donc on a vu ce que ça donne. Après, je ne suis pas sûr que la stratégie de Cyril soit forcément de lutter Lewis pendant 5 rounds. Mais ouais, voilà, il se relève bien, Lewis, effectivement.
C'est pas technique,
Et après, il a un autre truc qui ne s'explique pas, mais qu'on appelle le succès. C'est-à-dire qu'il va te mettre un coup et ça va marcher. Et toi, tu vas mettre 4 fois le même coup, ça ne fonctionnera pas. Tu vois, il n'y a pas de logique. C'est juste que c'est le coup qui va mettre au bon moment, qui n'a aucune explication. Et le coup, par exemple, contre Volkov, on est un petit peu l'exemple. C'est-à-dire qu'on appelle, c'est un lucky punch, mais c'est aussi juste avoir du succès dans ce que tu vas faire. Là où 9 mecs sur 10 auraient mis le même coup sans mettre KO, juste sonné, bah toi tu vas mettre KO. Donc il a quand même du succès dans ce qu'il fait.
Et puis il a aussi sa plus grande qualité.
Il percute contre Curtis Blade aussi.
Oh, c'est vrai. Mais il y a aussi une qualité qui fait qu'il est là où il est, c'est qu'il est hyper marketable. Il est très drôle.
C'est un des mecs
les plus marrants. Un peu à la limite du malaise parfois.
Exactement.
Limite cringe, mais
tu sais, c'est l'oncle un peu gênant que t'as au repas de famille, tu vois. Mais qui est marrant quand même et que tu kiffes à voir, tu vois.
Exactement.
Et ça aide pour sa personnalité. Ça l'a aidé à être propulsé là.
Bah bien sûr. Après, son compte Instagram, il est mortel. C'est-à-dire que Joe Rogan, il avait invité tout le monde à aller. Il a dit allez voir son compte Insta. C'est le plus marrant du MMA game.
Ses interviews après combat,
c'est énorme.
J'avais chaud entre les parties.
Ça permet de rebondir sur un thème sur ça, mais on sera à Houston, qui est sa ville. Il est à domicile. D'ailleurs, techniquement, ce combat, il se fait un peu pour ça aussi, parce qu'on va pas se mentir. L'UFC était en galère de main event pour Houston le 7 août. Ils avaient Amanda Nunes qui va combattre. C'est pas assez star power pour vendre à Houston. Il fallait mettre Derrick Lewis. Ils ont demandé à Francis. Francis a dit je suis pas prêt, j'ai pas le temps de me préparer. Boum, combat intérimaire pour le titre. C'est comme ça que ça se fait. Mais en gros, il est à domicile. Quand on a regardé le premier teaser de l'UFC, moi j'étais quand même pas sur le cul, mais pas loin, à voir que c'était quand même sur 1 minute 30. Je pense que c'était 1 minute 10 sur lui et 20 secondes sur toi. Grosso merdo. Est-ce que tu as l'impression qu'on le met quand même en position favorable et que, tu vois, du côté de l'UFC, voilà,
c'est
lui qui est un peu plus mis en avant que toi, quoi, pour ce combat-là.
On va vendre des places à Houston et pas à Paris. C'est tout à fait compréhensible quand on a la casquette marketing, tu vois. Moi, être outsider, ça me dérange absolument pas.
Est-ce que tu n'as pas l'impression que l'UFC préférait que ce soit Lewis qui gagne ?
C'était le sous-entendu de ma question.
Qu'il soit marketable, qu'il ait beaucoup de followers, etc. Est-ce que tu le sens comme ça ?
Non, même pas. Non. Je suis pas sûr.
Moi, je vais dire le contraire d'Alex. Et je trouve pas forcément qu'il soit forcément mis en avant. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde la vidéo, oui. Maintenant, moi, ce que je regarde aussi beaucoup, c'est la communication qu'a l'UFC. Et qu'on la voit, elle est quand même aussi beaucoup tournée sur Cyril. Donc, je trouve pas forcément qu'il y ait eu un vrai. Alors, effectivement, on est à Houston. Donc, forcément, il faut en faire un petit peu quand même sur lui.
Ouais, mais c'est lui qui va vendre, comme
mais,
dit Cyril
mais
aussi.
Ce que je veux dire, c'est que je ne trouve pas forcément qu'il y ait plus d'engouement que ça, en tout cas sur lui. Maintenant, moi, si j'étais l'UFC, bah, je préférerais que ce soit Cyril qui gagne. Que Derrick Lewis qui gagne, parce que tu as toujours cette crainte du premier combat qu'il a fait contre Francis.
Horrible combat,
Dana White avait qualifié ça du combat le plus horrible de l'histoire de l'ère moderne de l'UFC. Donc, j'ai envie de dire, il y a quand même ce truc-là. Et puis, il y a aussi, ça devait être Francis-Cyril, bah, c'est quand même une com qui est déjà toute faite, une histoire qui est déjà toute écrite, qui est déjà vendue. Des vidéos de sparring commencent déjà à tourner.
Ce qui m'étonne, c'est que depuis l'annonce du titre, du combat pour la ceinture de Cyril, je pensais que cette ligne-là, tu vois, ces histoires-là ressortiraient un petit peu plus. Et j'ai pas l'impression qu'aux États-Unis et auprès des fans américains, les gens savent vraiment. J'ai l'impression que minorité qui savent à peine que Francis et Cyril ont se parlé ensemble.
Si. T'as des postes qui ont... Moi, après l'annonce du combat, t'avais l'impression que c'était... Moi, j'ai eu la sensation, quand je regardais Instagram, Twitter, que c'était un Cyril Francis qui était annoncé et pas un Cyril Lewis. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de vidéos de beaucoup de médias qui ont sorti les vidéos de sparring. Il y a beaucoup de médias qui ont fait des comparatifs Cyril Francis. C'était vraiment tourné sur un Cyril Francis. C'est-à-dire que si tu n'avais pas dormi la veille et que tu avais loupé que c'était Lewis Cyril, bah, y avait moyen de croire que c'était un Cyril Francis qui arrivait. Non, ils ont vraiment... C'était vraiment orienté sur...
Parce que je te dis ça, parce que tu vois, par exemple, dans l'émission là, qu'il y avait, là, que Daniel Cormier a, tu sais, avec Ariel Helwani,
ouais.
Quand il parlait du combat, aucune mention du passé commun entre Francis et Cyril. Pareil, dans le podcast de Michael Bisping, aucune mention. J'ai l'impression que c'est pas... Ça reste auprès des fans,
ça va monter,
mais
ça.
Qu'auprès des médias, c'est pas encore, tu vois. Et que si cette sauce, elle montait, ça pourrait devenir quelque chose d'énorme.
Mais en fait,
moi, je pense qu'il faut la faire monter, la sauce.
Bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui va monter. C'est-à-dire qu'après, les gars, il y a quand même un truc qu'on a dit tout à l'heure qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et l'UFC s'est projeté quand même pas mal de fois récemment. Il y a eu beaucoup de déconvenues sur les projets qu'ils ont avoir, où ils se sont retrouvés un petit peu une main devant, une main derrière. Donc je pense qu'ils se disent, OK, on va quand même attendre de voir ce que Cyril donne. Et puis s'il gagne, t'en fais pas, la com, elle va sortir dans la foulée. Mais je pense que c'est vraiment plus de la prudence de dire, OK, on va pas pour le moment trop parler d'un truc, polémiquer d'un truc, alors qu'on sait pas finalement ce qui peut se passer. Donc plutôt que
si l'UFC prenait de la prudence pour cacher des polémiques.
Mais ce que je veux dire, c'est que très tôt ils ont commencé à poser
le boxon, ils le foutent, hein.
Cyril est là, il peut te le dire. Très tôt ils ont commencé à poser des questions sur est-ce que Cyril pourrait battre Francis, tu vois. Avant même que je suis même pas sûr que tu avais déjà fait ton premier main event.
À mon premier combat en sortant victoire, etc., foulé, parce que avant, tu sais, c'était mon premier combat, donc j'avais pas trop d'interviews avant les combats, c'était plutôt après. Dans la foulée, moi, c'était une préparation mentale déjà, je savais que Francis allait arriver. Ils étaient tellement friands de cette histoire-là.
Ouais.
Ils ne parlaient que de ça. Mes trois premiers combats, mes interviews, là, 50%, ils ne parlaient que de ça.
Ah, mais en fait, tu n'es pas perdant si tu es l'UFC. Peu importe ce qui se passe le 7 août. Derek Lewis gagne, tu as la revanche du premier combat qui était horrible. Vrai, et tu sais que les deux, ils vont vouloir donner pour venger ce premier combat. Et Cyril gagne, c'est tout ce storytelling dont on parle depuis des mois et des années qui va remonter.
Je peux te dire que
si ça se fait, la première chose que je fais, c'est que je vais dans le téléphone de Taylor et de Fernand. Hein. Je pense qu'il y a 2-3 vidéos à aller ressortir de l'époque.
C'est Fernand qui les a. Moi, je ne les ai pas.
Parlant du King.
Moi, j'ai 2-3 photos, c'est tout.
Parlant de Fernand Lopez, et pour finir sur un peu ton game plan et cette approche de Derek Lewis, tu nous avais confié que Fernand, le King, il a une habitude, c'est qu'il envoie un petit PDF avec le game plan, un PDF écrit avant chaque combat pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il est tombé déjà et qu'est-ce qu'il y a dans ce PDF?
C'est vrai qu'il ne l'a pas sorti, ce PDF-là, et il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps, c'est vrai qu'on a pas mal enchaîné.
Ça va trop vite.
avec les événements, tu sais, il y a Alan, il y a...
Nassour.
Il va bien d'ailleurs, Alan.
Et pas mal de taf, tu vois, à gauche, à droite, etc. Donc le PDF, il ne l'a pas sorti, mais on a pris du temps pendant une semaine de mettre au clair le game plan l'orientation de l'entraînement. Donc on sait très bien vers quoi on va.
Et thème aussi que je voulais aborder, parce qu'on en a parlé quand il y a eu l'annonce et que je t'ai appelé pour une petite interview sur le site RMC Sport, on a parlé de ça. Et tu m'as dit, j'ai adoré cette phrase, tu as dit, c'est la première fois que je suis stressé. Mais alors je ne stresse pas pour le combat. Je stresse parce qu'il y a la naissance de ma fille en août et que si jamais il y a un problème, si ça se fait plus tôt ou quoi que ce soit, je serai en plein combat ou en pleine prépa. Est-ce que c'est rentré en ligne de compte dans ta décision de prendre ce combat, le fait que ta fille donc, soit censée naître fin août, et est-ce que tu as eu des hésitations à prendre à cause de ça?
Moi, j'allais dire non.
Ta femme écoute, fais gaffe.
Non.
Il allait dire non au combat.
J'allais dire non au combat. C'est-à-dire quand c'est sorti comme ça, tchac, tchac, tchac. L'instinct, tu sais, ça a été non, je vais être là pour ma fille, tu vois. Je vais être là pour l'arrivée de ma fille, ça se fera pas deux fois. Et... Tu vois ce que je veux dire? Que l'UFC, c'est mon métier, ok, certes, mais. Puis beaucoup d'hésitations, beaucoup de questions, beaucoup de conseils ensuite autour avec la team, etc., etc. Puis ma femme de l'autre côté m'a rassuré aussi, tu vois. C'est elle aussi qui m'a aidé.
Moi, je suis confiant, le destin est avec toi. Et j'espère.
Tu auras le temps de rentrer. Avec la ceinture.
Tu as eu son saut d'approbation quand même, madame.
J'ai eu son approbation.
Bien sûr.
Prévu pour quand?
Tu vas pas s'en poser de questions.
Le 22 août.
C'est prévu pour le 22 août, mais tu vois, il fait chaud. La première, elle est arrivée un peu plus tôt. Tu vois, c'est des signes qui font que... Bon, je croise les doigts, j'essaie de pas trop y penser. Et puis, j'essaie de relativiser, de me dire, bon, ben, si ça arrive, le principal, c'est que tout se passe bien. C'est que que les deux soient en bonne santé et que voilà, c'est papa, il sera de retour et voilà.
Bon, donc ce combat aussi, c'est, je l'ai dit en introduction, mais c'est la première fois, alors ça nous parle à John Taylor, qui suivons ce sport depuis tant d'années, c'est la première fois qu'un Français va combattre pour une ceinture. Alors c'est une ceinture intérimaire pour l'instant, mais une ceinture de l'UFC, quoi, ça a de la gueule, les gars,
peu,
quand même. Hein.
Peu importe,
on est d'accord.
C'est une ceinture et c'est historique.
Et c'est que, l'histoire c'est qui s'écrit. Toi, ton...
C'est déjà.
C'est dans ta tête aussi.
Attends, pas du tout. On disait quand même que Francis était le premier.
C'est vrai.
Ouais, mais aujourd'hui,
Francis n'a pas les. Enfin, il a fait une demande de papier français, si je dis pas de bêtises, mais il a pas les papiers français.
Oui,
il a toujours dit qu'il était camerounais.
Soyons honnêtes, quand il a combattu son premier combat contre Cipé, on disait tous les journaux titraient un Français, premier Français à combattre pour une ceinture de l'UFC.
Déjà, tous les journaux. Okay, tu relis mes papiers de l'époque et tu regardes ce que j'écrivais. Déjà, c'est pas tous les journaux. Mais la plupart, oui, la plupart.
C'était titré comme ça, puisque après, on va pas se mentir, ça les arrangeait aussi de communiquer comme ça. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai envie de dire premier français, premier né français, déjà pour commencer, ce qui est quand même un petit peu différent malgré tout. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Francis représente la France.
Ah, mais pas du tout, il représente le Cameroun maintenant.
On est bien d'accord.
Donc, mais c'est ce que je voulais vous demander, les gars.
Ce que je veux dire, c'est que là, la ceinture, elle ne va pas aller à Vegas ou elle ne va pas aller au Cameroun, elle va aller à Paris.
Elle rentre à Paris.
Elle va aller à Paris et là où n'importe quel Français, en passant par le 12e, je ne sais pas où elle sera exposée, je ne sais pas s'il n'y aura pas un double pour exposer à la salle. Bref, j'en sais rien, mais en tout cas, n'importe quel Français sera en mesure de se dire ok, le champion intérimaire UFC, il est ici, il est dans le 12e, il est chez nous. C'est-à-dire qu'il est à 10 minutes de la maison. Donc, je pense que c'est quand même différent. Et pour moi, oui, non, c'est historique. C'est-à-dire que c'est historique parce qu'on a un Cyril qui va, dans son cœur et sa tête, réellement représenter le pays et va vraiment y aller avec une envie de se dire « Ok, je vais être ce Français ». Qui va le faire, qui va ramener cette ceinture.
Je sais pas où elle sera exposée, mais elle fera un petit tour par le studio du Fighter Club. Hein. Ça, j'y tiens déjà, je te l'annonce, Cyril. Hein. Et ouais, John, c'est un peu la question que je voulais poser quand je parlais de ça, mais pour nous, je vais te parler, ça va te parler, mais pour les mecs qui regardaient comme toi le Pride en cherchant des liens sur des sites complètement obscurs comme on pouvait faire à l'époque, ça représente quoi de voir un Français qui combat pour une ceinture de la prestigieuse UFC?
C'est totalement inattendu, il faut pas se voler la face quoi. Quand on était adolescent et qu'on regardait justement tous ces combats au Japon, il y avait quelques Français qui combattaient, mais ils se prenaient tous des roustes, faut être honnête, tu vois. On était c'était de la chair à canon. Mais c'est pas méchant, mais par exemple quelqu'un comme Gilles Arsène, pour qui j'ai énormément de respect et avec qui tu travailles sur RMC Sport, et alors ils l'ont envoyé short notice, il était pas prêt, lui-même le reconnaît, tu vois. Donc c'est vrai. Ils l'ont envoyé short notice, il était pas, lui-même dit qu'il n'était pas prêt. Non, et de là, à l'UFC, de voir que toi, quelqu'un comme toi, Taylor, qui a quand même. T'as fait 4 combats, t'as 3 victoires, quelqu'un. L'UFC te coupe, parce que pas de grand intérêt dans le marché français. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a encore quelques années, on se disait, oui, non, mais ça va jamais arriver. Si on me l'avait dit, j'aurais dit que c'est pas possible.
Après, là, si voilà. Il gagne, peut-être que. Tu vois, on sait pas. Tu vois.
Il y a des portes qui vont se réouvrir.
Il y a des papiers.
Il y a des portes qui vont se réouvrir. Et tu, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, mais c'est quand même, ça reste un truc étonnant. Donc tu vas faire ce combat pour un titre intérimaire pour l'instant. Déjà, avant que je revienne sur ça, mais question que je vais te poser, tu gagnes le 7 août dans ta tête et dans ton cœur, tu te sens champion ou ce sera pas avant Francis que, t'es,
non,
que tu te sens champion?
Non, ce sera cool. Ce sera cool
ça
pour
sera
les
des
photos.
Points pay per view.
Tu vois, ça va amener pas mal de bonnes choses. Ouais. Mais dans ma tête, non, le champion pour moi, c'est Francis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu dire sur pas mal d'interviews l'embrouille qu'il y a pu avoir avec son manager là, sur les réseaux, avec Dana, etc. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Je me dis, les gars, le champion, on sait qui c'est, tu vois. Genre, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas lieu à s'énerver, il n'y a pas lieu à être...
Tu as été en contact avec lui depuis...
Non, Francis, c'est pas du genre à être ami avec les gens. Mais non, le champion, c'est Francis. Malgré tout, j'aurai une ceinture intérimaire, ce sera cool, on va ramener ça à la salle. Au cas où je n'ai pas la vraie ceinture, tu vois ce que je veux dire, on aura au moins eu déjà ça.
Elle sera exposée quand même,
de ouf.
Ah, t'as des mecs qui continuent de faire des photos avec leur ceinture intérimaire.
Ah ouais, c'est la même. Le design, c'est le même.
Non, c'est la même.
C'est la même ceinture. Et Covington, il continue de faire des photos avec sa ceinture.
Et pour résumer, juste avant,
je vais même te dire, Carlos Condit, moi je suis fan de Carlos Condit, il n'a jamais eu la ceinture, mais elle était champion intérimaire, ça me suffit.
Non, mais c'est. Franchement, c'est exactement ça. Et c'est, ouais, c'est cette ceinture-là, elle intervient, donc ce combat pour le titre intérimaire, il intervient quasi 3 ans jour pour jour. Premier combat de MMA, c'est le 2 août 2018.
C'est vrai.
Ce combat pour la ceinture, le 7 août 2021. On est à 3 ans et 5 jours, très exactement. Déjà, est-ce que tu t'en souviens, pas pour faire ce thème, mais est-ce que tu te souviens de ce premier combat de MMA? Et à l'époque, est-ce que dans ta tête, tu disais, dans 3 ans, les gars, c'est pour une ceinture UFC? Ça pouvait pas arriver dans ta tête à ce moment-là, c'est tellement rapide.
Ça a été archi rapide. Après, pour le coup, c'est vraiment étrange. J'ai toujours été un petit peu inconscient et je me suis toujours dit que les choses pouvaient arriver et finalement elles arrivent. Aussitôt, bon j'avoue, c'est une belle surprise, mais tu m'aurais dit il y a quelques temps que j'arriverais à ce stade-là, je t'aurais dit ouais, c'est complètement possible.
3 ans, Taylor. Toi, quand
après,
quand
le 3 ans,
combat.
Peut-être pas, tu vois. Le 3 ans, peut-être pas.
Quand tu l'as vu à son premier combat, jamais tu pouvais imaginer ça, non?
Alors, le futur de Cyril, moi, j'ai jamais été inquiet sur son futur.
C'est-à-dire
que. Moi, la phase de Cyril qui m'a marqué vraiment profondément, où je me suis dit, oh, c'est pas un mec comme les autres. On était à un cours de lutte et on faisait, tu sais, on faisait pas mal de cabrioles en lutte, tu vois. Donc, on faisait des roulades, des trucs et tout. Et là, je vois Cyril qui fait, donc tu vois la salle, hein, MMA Factory en bas, qui fait un espèce de saut en l'air, mais tu sais, en plongeant avec une roulade et tout. Un truc improbable pour un mec aussi costaud. Et j'ai dit, waouh, c'est ouf, je le ferais pas moi-même, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je prendrais même pas le risque de faire ce genre de truc, de me sauter en l'air et de faire un truc, une roulade, un truc de film d'action, tu vois, que tu verrais dans Fast and Furious, tu vois. Et bah lui, il fait ça. Et je me dis, ce mec, il est dingue. Et là, je me suis dit, il a des capacités physiques hors normes, en fait. Il a un truc qui est pas comme les autres. Et là, il y a le premier combat qui tombe et tu te dis, bon. Ok, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Donc, qu'il en soit là, non, je suis pas surpris parce que je savais que avec les qualités qu'il a, avec l'intelligence de combat qu'il a et la faculté qu'il a de maîtriser les sports, on en a déjà parlé à plusieurs points, hein, où j'ai déjà dit
ping-pong, on a vu que c'était pas ça.
Ah les gars, vous jouez toujours au ping-pong ici, arrêtez.
C'est notre métier numéro un.
Les mecs sont censés travailler dans une table de ping-pong en plein milieu du bureau. Il y a toujours du monde. Quand je viens, il y a toujours du monde sur la table.
Il y a des tournois et tout.
Toujours.
Il y a des tournois, tout ça, mon gars.
Je peux pas rivaliser.
Donc
il a tellement raison.
Mais 3 ans, en tout cas, ouais. Non, 3 ans, non, c'est improbable. C'est-à-dire que personne va te dire. Oui, en 3 ans, tu fais ton premier combat UFC. Tu fais ton premier combat de MMA et 3 ans plus tard, tu seras champion. C'est-à-dire que même Conor McGregor qui a fait des trucs incroyables et que on peut vraiment
et
considérer
arrogant
comme un GOAT commercial, bah il a pas fait ça. Je veux dire, c'est que 3 ans de pratique de MMA et en 3 ans, tu fais un combat pour la ceinture. Je suis
c'est
même pas
énorme,
sûr que ce soit déjà arrivé même à l'UFC.
Et parce qu'il faut rajouter à la dinguerie, hein, qu'il y a 3 ans, mais il y a une année où il combat pas. Une année entière où il combat pas avec le Covid et les forfaits. Donc c'est 2 ans, hein, techniquement. C'est 2 ans.
Covid, forfaits, blessures, il y a plein de trucs. Hein.
John, il y a eu un équivalent d'une montée aussi météorite. Moi, je me souviens, là, en préparant un petit peu comme ça, sans faire trop de recherches, je voyais pas. Il y a des exceptions comme un Brock Lesnar, mais il avait un tel passé dans le catch, dans la lutte. Il était superstar avant d'arriver, donc l'UFC l'a élevé tout de suite. Mais deux mecs qu'on connaissait pas à la base et qui montent aussi vite, est-ce que ça existe? Moi, j'ai pas l'impression.
Je pense peut-être Cody Garbrandt.
Ouais, mais aussi vite.
Même pas. En
ah
fait,
si, c'est rapide, Garbrandt.
C'est rapide. C'était
fou, quoi.
C'est
en un an et demi à l'UFC, je crois.
C'est rapide.
Il y a eu Chimaev, peut-être.
Chimaev,
il a pas match pour une ceinture.
Il
en est loin.
D'aller jusqu'à la ceinture, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que Garbrandt, ce qu'il a eu, et ce que n'a pas forcément encore Cyril, c'est que malgré tout, pour ce qu'il a fait, la hype, je trouve qu'elle n'est pas encore en adéquation avec le truc qu'il est en train de faire de ouf. C'est-à-dire que t'es à combien de followers sur Instagram? Je m'en souviens plus, j'ai pas regardé. Mais...
Je sais pas, 150, je crois.
Ouais, tu vois, ça reste quand même assez léger. Finalement, le retour de hype qu'il a, il reste encore léger pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même en France, je suis même pas sûr que les gens se rendent vraiment compte de ce qui est en train de se passer. Tu vois, donc je trouve que c'est juste ça, c'est que le retour de hype qu'il a par rapport à ce qu'il produit. N'est pas forcément en adéquation.
Je viens de regarder, Garbrandt, il prend la ceinture après 11 combats et après 4 ans.
C'est même assez sensiblement pareil.
Okay.
C'est quand même très rapide, Taylor.
C'est il
est champion, il apprend Dominique Cruz, qui est le god de la catégorie. C'est énorme. Après, si Cyril prend la ceinture, ça aura plus d'impact parce que c'est la ceinture poids lourd. Mais voilà, c'est le. Hey, c'est on compare vrai. Juste ton pote à un autre, on n'est pas en train de dire qu'il va pas gagner le combat, t'es fou
de,
quoi,
la
toi.
La tête de Taylor, les gars.
Ouais, Garbrandt, c'est impressionnant, Taylor.
Et on a vérifié.
Surtout à son âge.
Si tu veux.
On a vérifié sur les 146 000 tes followers pour l'instant sur Instagram, à l'heure où on enregistre et où on parle. Et parlant réseaux sociaux, mais j'ai plus que quelques petites questions avant de te libérer, Cyril, mais j'ai vu passer un petit tir à la carabine là, ces derniers jours en vidéo.
Non, c'est pas de la carabine.
Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es fait un petit kiff?
J'ai tiré, mon gars. C'est pas de la carabine, je te le dis.
Bah justement, explique-moi.
Non, c'était... D'ailleurs, c'était ma première séance de tir. C'est la première fois que j'avais une vraie arme à feu entre les mains, parce que moi, j'ai toujours été adepte un peu de l'airsoft. L'airsoft, ce sont des répliques. Ouais. Donc, t'as vraiment l'impression d'avoir une vraie entre les mains. Mais c'est de la réplique, ça tire des billes. Et donc, du coup, tu fais ça sur des gros terrains énormes avec des équipes et tout. Enfin, c'est vraiment une reconstitution de la guéguerre, en fait, en quelque sorte. Mais tirer à l'arme à feu réel, en centre de tir et tout, etc., je n'ai jamais fait. C'était une première. Et je l'ai fait dans de très belles conditions et je ne compte pas m'arrêter. Et c'est un plaisir. J'aime bien. C'est un peu comme, tu vois, je fais un peu de golf. C'est nouveau pour moi. C'est des choses que j'ai toujours eu envie de faire, et maintenant que je suis un peu grand, je le fais, tu vois, je me fais plaisir.
Champion UFC en 2021, champion olympique de tir à 10 mètres à Paris 2024.
Ou enfin, tueur à gage.
La base, quoi, les trucs.
Tueur à gage, tueur en série. Ouais.
Premier célèbre tueur à gage français.
Les trucs de base, quand même. Et les gars, plus vous globalement aussi, mais on est obligé, on est des sports où, comme on dit, on ne met pas la chèvre avant les bœufs, mais on se projette toujours parce que c'est des sports de projection et que dès qu'un combat est fini, on parle de la suite. C'est toujours comme ça. Les gars, franchement, il faudrait beaucoup de si pour que ça arrive. Je suis d'accord, notamment la reprise de la pandémie ici, et c'est mal parti vu ce qui est en train de se passer. Francis Ngannou, Cyril Gann, unification de la ceinture des lourds à Bercy. Est-ce que ça n'a pas de la gueule, les gars?
Ah, ça a de la gueule, et c'est terrible, et c'est incroyable. Mais ça n'arrivera pas.
À Las Vegas.
Ça n'arrivera pas, ce sera forcément Vegas, parce que c'est un combat qui aura beaucoup d'aura, un combat qui aura beaucoup de hype, un combat qui je suis sûr, aura une belle promo, bien qu'elle n'ait pas forcément encore commencé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui aura une belle promo. Mais ça
sera Francis
pas...
voudra combattre à Vegas, sûrement, c'est sa nouvelle maison, et il sera à domicile.
Ça ne se fera pas, oui. se fera pas.
Par contre, si Cyril prend la ceinture...
Par la suite, je pense
que ça sera possible éventuellement d'avoir une défense à Paris.
Oui, c'est possible.
Ça dépend contre qui et ça dépend l'aura qu'a Cyril à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire oui, c'est possible. Si l'aura de Cyril explose et devient énorme, ils le feront à Vegas.
Toi, l'UFC...
Par exemple, Bisping a pu défendre à Manchester.
Ouais, mais c'est une question de...
On parle d'un Hall of Famer, tu vois.
D'accord, mais c'est quand même malgré tout une question d'aura. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a été très connu dans le MMA, mais qui n'était pas non plus extrêmement...
Sur le marché européen, c'était quand même un gros...
Le marché européen, ouais, mais moi, je te parle du marché mondial, aux US. C'est-à-dire qu'en fait, ils te font combattre aux US parce que tu as le public US qui suit. Et à l'époque, quand Bisping est champion... Le public US ne suit pas forcément, surtout que pour la plupart des gens, bon, il est un peu champion, on n'y croit pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que tout dépend de l'aura qu'a Cyril à ce moment-là. Et s'il a un gros aura, et ben ça se fera aux US. Si par contre, il a un bon aura malgré tout, mais que ça reste quand même pas assez suffisant pour pouvoir faire exploser aux US, il pourrait faire en Europe.
Je pense qu'ils pourront servir de Cyril pour justement lancer leur implantation.
C'était un peu ma question. Est-ce qu'il t'en, sans être spécifique dans des détails, mais est-ce qu'il te parle de ton importance dans le développement du marché en France où la discipline a été légalisée que l'an dernier, on le rappelle, hein.
C'est compliqué comme question. Je pense que vous avez tous les deux raison, en fait, les gars. Et on verra bien quel sera l'angle d'attaque de l'UFC. Est-ce qu'ils auront envie de faire grandir le MMA en France, ou est-ce qu'ils ont envie de tout simplement de faire un combat avec beaucoup de pay-per-view à Vegas pour qu'il y ait vraiment un succès sur le pay-per-view, tu vois. Donc je sais pas.
Les pay-per-view peuvent très bien te faire combattre ici à 4h du matin, hein. C'est ce qu'ils ont
aussi. Ils peuvent aussi. Après, pour le public et tout, c'est un peu relou.
Non, le public suit. En Angleterre, ils l'ont fait.
Bisping Anderson, ils l'ont fait. C'était à 4h du matin.
Ils l'ont fait.
Stockholm aussi pour Alexander Gustafsson.
En fait, c'était fait. Moi, je ne savais pas le MMA.
Non, ils l'ont fait.
Je ne connaissais pas le MMA à cette époque-là.
Et Manchester, comme Stockholm avec Gustafsson, il était 4h du mat, la salle est en fusion.
Moi, je pensais que
les gens avaient picolé depuis 23h et c'était chaud bouillant.
Et donc. Je pense que ça s'était fait pendant la pandémie.
Non, moi, je pense. Alors, Alors surtout pour, sur, s'il prend la ceinture, une défense de titre ici, tu le fous à 4 du mat. Je pense que Bercy est rempli. Hein.
Ah,
Bercy
est rempli en fusion. À 4 du mat, ça suit. De toute manière, le public suit. C'est, on se rend compte que le public, tu leur dis OK les gars, on fait ça, et ils te disent OK, on le fait. Quoi, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas inquiet là-dessus.
Ça a presque même un côté particulier. Enfin, tu vois, pour le public, ce serait un côté sympa de faire un truc que t'as pas l'habitude de faire.
À 4h du mat, je suis dans un event de MMA. Il y a un Français qui combat pour une ceinture. Enfin, ce serait un truc. Ouais, c'est un UFC. Donc on sait la force aussi médiatique qu'a l'UFC en France. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent même pas que le MMA et le UFC, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu fais de l'UFC,
ouais.
Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que là, tu as l'opportunité de venir prendre un petit bout d'histoire en disant ben, j'ai assisté au premier UFC en France, même s'il est à 5 du mat, tu viens faire ton UFC. Tu
vois. Bon, et les gars, pour conclure, maintenant on va conclure sur la question qu'on pose à chaque fois qu'il y a un combat. Cyril Gane, Derrick Lewis, le 7 août, vos pronostics, les gars, telle heure.
Moi, j'ai TKO round 4.
John.
TKO round 5.
Ah, vous êtes des salauds parce que je pensais que vous alliez dire une décision au moins et j'avais prévu TKO au 4 aussi. Donc on va rester sur le choix, TKO au 4. Donc là, t'as 3 TKO là, Cyril, tu peux pas nous...
Herbie, tu...
Non, Inch'Allah, la victoire, c'est tout, moi c'est tout ce que je me souhaite, la victoire.
Non, mais...
Et ouais, non, si...
Il y a une envie de le finir quand même, parce que pour finir là-dessus, mais on sait qu'il y a eu le grand public, tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, préfère souvent les mecs à la Francis qui éteignent la lumière. Il y a eu 2-3 critiques de Dana White après Jairzinho.
Je serai jamais
comme ça, mais il y a une envie de finir de le dire.
Il y aura une envie de finir avant la fin du combat.
Fais-moi kiffer, fais-moi encore un crochet de talon.
Ouais, pourquoi pas, partir sur des choses comme ça. Mais encore une fois.
Je crois qu'il sait même pas ce que c'est.
Les gens. Qui c'est, moi?
Non.
Ah, lui.
Mais oui, je suis sûr que c'est même pas ce que c'est.
Non, moi, ce que j'ai envie de dire, pour terminer sur mon cas, c'est les gens, habituez-vous à mon style, parce que je ne veux pas changer de style. Et qu'au final, il va falloir apprécier mon style. Beaucoup déjà apprécient ce style-là, mais j'aime bien comparer avec Mayweather. Mayweather, quand il fait une carrière pleine, zéro défaite, c'est pas forcément un faiseur de chaos, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, on apprécie sa boxe comme elle est. En boxe anglaise, il y a des styles différents. Il y a des punchers, il y a des gars comme Mayweather. Là, et on apprécie les styles différents. Et j'aimerais bien que les MMA aussi, que les fans de MMA...
C'est pas comme si t'avais zéro finition en plus.
Oui, en plus. Mais c'est clair.
Il y a des gens qui trouvent que Stephen Thompson est chiant à regarder. Ouais. Alors que c'est quand même un mec qui, debout, maîtrise...
Non, mais je sais pas qui c'est.
Wonderboy.
C'est aussi la...
Laisse tomber.
Ça, c'est le Cyril que j'aime, tu vois. Mais c'est aussi la culture de l'instant, les gars. Et c'est que voilà, on est dans une société aujourd'hui où on reste sur ce qui vient d'être fait et on réfléchit pas à ce qu'il y avait avant.
Il en a des finitions.
En tout cas, je vais pas m'avancer beaucoup en disant que dans cette salle, on apprécie beaucoup ton style et on est prêt encore à voir plein de masterclass de Cyril Gane quand tu veux. Bon, donc rendez-vous est pris, les gars. 7 août, RMC Sport. Je crois qu'il y aura un Taylor Lapillus aux commentaires, notamment dans l'équipe.
Debout, il a
nuit du 7 au 8 août. Ouais, il nous a prévenu, il sera debout. Hein, alors, donc, soyez
les amis, on verra pas trop la différence quand il est assis ou debout.
Je vais commenter debout ce combat avec plein d'émotions.
Donc, nuit du 7 au 8 août sur RMC Sport, en direct, en exclusivité. Ceinture intérimaire des lourds, Cyril Gane, notre bon gamin contre Derrick Lewis. Plein de force, Cyril.
Merci,
tu sais qu'on est derrière toi et qu'on sera devant l'écran. Et puis à la rentrée avec la ceinture dans les studios.
Pousse.
Allez. Merci les gars et à bientôt.
Salut, merci.
Salut les gars.
RMC Fighters Club.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.